La littérature scientifique et la statistique agricole nous apprennent que les agricultrices divorcées ou en instance de divorce peuvent connaître une double domination de classe et de sexe. Et donc, depuis 2014, le suivi d'une revue de presse sur le thème de l'agroalimentaire dans l'édition Ornaise de Ouest France a mis au jour le cas d'une agricultrice ornaise que je propose de considérer comme atypique au regard de la domination masculine analysée par Céline Bessière et Sybille Golac. Cette hypothèse repose sur l'analyse de 10 articles parus entre le mois d'août 2015 et septembre 2016, dont la répartition dans la hiérarchie des rubriques du quotidien se présente comme cela: 7 articles en page locale, 2 en page régionale, donc Normandie, et un article en page nationale. À ces articles s'ajoutent des matériaux collectés lors d'une observation directe menée par le collectif ROCS, donc revisite de l'Observatoire du changement social. Et puis quelques analyses du recensement de population de l'INSEE en date 2007 et 2012. Alors, cette réflexion, elle s'inscrit dans, je cite, une approche matérialiste du genre, où le patriarcat est analysé comme un système économique et de domination autonome, dans lequel c'est l'exploitation domestique et sexuelle des femmes par les hommes qui détermine l'existence de classes de sexe et la construction du genre comme binaire, hiérarchique et complémentaire. Je cite là l'introduction de l'ouvrage Espace et rapports de domination, écrit notamment par Anne Clerval. Et donc cette domination est inscrite dans une imbrication de rapports de domination où les auteurs rappellent que c'est l'inégalité économique qui se trouve au fondement de groupes sociaux antagonistes. Alors, je ne suis pas familier de l'approche matérialiste du genre dans les études agricoles que je pratique habituellement en géographie sociale, qui est une discipline attentive à la dimension spatiale des inégalités sociales. Et c'est pourquoi je propose de mettre en débat dans cet atelier privilégié mes esquisses d'observation et d'analyse. Étant donné à la fois ce caractère privilégié et d'autre part le caractère public des sources médiatiques que je vais utiliser, je ne vais pas procéder à l'anonymisation du cas qui nous intéresse, puisque notamment ces articles sont parus dans le premier quotidien national en termes de tirage. Donc, dans un premier temps, je rappellerai l'imbrication des rapports de domination que connaissent les agricultrices confrontées au divorce, d'autant plus forte dans certains couples et au sein de certaines filières agricoles. Là, je reprendrai l'article de Céline Bessière et Sybille Golac pour mieux cerner la typicité de l'agricultrice qui nous intéresse. Ensuite, j'essaierai de comprendre quel type de capitaux interviennent dans la résistance de l'agricultrice à la précarité post-divorce qu'elle rencontre. Et puis je terminerai dans une dernière partie sur l'imbrication des rapports de domination auxquels elle se confronte. Voilà. Donc d'abord, l'état de la question à l'épreuve d'une étude de cas. Donc dans leur article sur les exploitations agricoles à l'épreuve du divorce, Céline Bessière et Sybille Gonac se basent sur une vingtaine de dossiers judiciaires de divorce qui impliquent un agriculteur et une agricultrice entre 2009 et 2011. Donc elle rappelle que d'abord en agriculture, le changement social se traduit par l'accroissement des unions libres, de la rupture de la première union des agriculteurs et des agricultrices, le développement du salariat féminin hors exploitation agricole ou encore le choix croissant de régimes matrimoniaux séparatistes. Et elle nous dit que ces régimes permettent d'anticiper les risques des séparations conjugales en présence d'une entreprise familiale qui constitue l'assise d'un statut social qu'il s'agit aussi de transmettre dans le cadre de la lignée. On voit sur ce scan d'un article Ouest France, donc de la rubrique juridique et à proximité de la page agricole à la fin du journal, hein, que le journaliste en charge de la rubrique rappelle que le régime communautaire n'est pas forcément adapté pour les professions libérales ou les indépendants et indépendantes que sont notamment les agriculteurs et les agricultrices. Donc les deux auteurs intitulent une partie de leur article La faillite d'un couple et d'une exploitation, c'est-à-dire que dans ces cas de divorce, les exploitations disparaissent, les entreprises disparaissent à l'issue du divorce. Et donc elles identifient dans ces cas-là un certain nombre de propriétés communes, notamment il s'agit d'une exploitation maraîchère et d'une exploitation laitière. J'insiste sur cette partie de l'article puisque c'est là-dessus que va se baser notamment mon hypothèse d'atypicité de l'agricultrice divorcée, puisque là je vais citer les auteurs assez longuement. Elles nous disent ce n'est pas un hasard si ces deux cas de faillite concernent une exploitation d'élevage laitier d'une part et d'horticulture d'autre part. Exigeant un fort travail d'astreinte, L'élevage bovin est de loin le secteur de production où la part la plus importante de conjointes travaillant au moins à mi-temps sur l'exploitation, 55% contre 24% pour la moyenne nationale de toutes les exploitations. Et puis en maraîchage et horticulture, le taux de travail conjugal s'élève à 36% pour les conjointes qui travaillent au moins à mi-temps sur l'exploitation. Et donc elle termine un long développement où elle dit « Nous pouvons affirmer que les conditions de la rupture sont nettement plus favorables dans le cas d'exploitation en céréaliculture, en production de porc, de volaille ou en viticulture. » Elle le dit à la fois pour les deux époux et indissociablement pour le devenir de l'entreprise. Alors, dans le cas des exploitations qui résistent au divorce, les auteurs insistent sur l'importance des conditions d'acquisition du patrimoine productif. Elles pointent que lorsque les agriculteurs sont issus d'une lignée d'agriculteurs, et qui plus est si cette lignée est bien dotée en capitaux et soucieuse de la pérennité de son patrimoine, ils ont peu de chances de voir leur exploitation et donc leur statut social mis en danger par le divorce. D'une manière générale, que ce soit dans le cadre des exploitations qui résistent au divorce ou dans celles qui font faillite, les auteurs constatent que la procédure de divorce, je cite, « solde les comptes entre les ex-époux en reconnaissant peu la contribution économique des femmes au maintien des exploitations, tout en les contraignant à rester solidaires de leur ex-époux agriculteur au-delà de la séparation. L'examen des situations des ex-épouses d'exploitants frappe surtout par le traitement inégalitaire dont elles font l'objet. Le maintien de la position de leur conjoint repose en grande partie sur le sacrifice de leurs conditions de vie. » Et donc, on peut préciser cela, c'est notamment une situation patrimoniale qui est défavorable et un destin qui reste attaché à celui de l'exploitation, alors même qu'elles en sont écartées et perdent par la même occasion parfois leur travail et souvent leur logement. Donc, elle conclut « Ainsi, au moment où l'augmentation des séparations conjugales touche tous les milieux sociaux, la perpétuation de la domination masculine selon des modalités renouvelées participe à la reproduction de groupes sociaux agricoles inégalement dotés. » Et au-delà du secteur agricole, l'Ouest France reprenait des chiffres de l'INSEE ce mois-ci et montrait par exemple que l'année suivant la rupture, le niveau de vie des femmes baisse de 25% si elles sont mariées. Et c'est justement le cas de l'agricultrice qui va nous intéresser. Donc pour finir cette première partie, je vous propose de revenir un petit peu sur l'histoire d'une précarité post-divorce. Voilà la une qui est un petit peu à l'origine du cas d'étude. Et donc d'un point de vue des sources que je vais mobiliser, l'histoire de cette agricultrice commence le 27 août 2015, alors qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. En effet, dans l'article donc de la même édition, on apprend que suite au divorce de cette agricultrice, avec son ex-mari associé, l'exploitation agricole se trouve en redressement judiciaire et elle doit rassembler de l'argent pour démontrer à l'institution judiciaire que l'exploitation est viable. Donc 30 000 euros pour sauver le cheptel et 50 000 euros pour relancer l'activité. À ce moment-là, des amis et confrères lui suggèrent de solliciter du financement participatif via le site dédié KissKissBankBank. Donc le 26 août 2015 à 18h, elle avait collecté 26 423 euros et l'opération réussit partiellement puisque 36 238 euros sont récoltés le 29 août 2015 et finalement 48 840 euros le 1er septembre 2015. S'ajoute à cela 6 000 euros qu'elle reçoit par voie postale. Donc l'agricultrice dispose grâce au financement participatif de 54 840 euros nécessaires à la sauvegarde du troupeau et en partie à la relance de son activité agricole. Elle est alors interviewée par la journaliste Anne-Emmanuelle Lambert et elle décrit les donateurs et les donatrices, je cite, « des personnes qui souhaitaient et attendent une agriculture plus paysanne, en équilibre avec la nature ». Donc elle reçoit de nombreux soutiens et malgré ces soutiens tels que l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, l'opération de financement participatif ne permet finalement pas d'atteindre la somme pérennisant l'exploitation, notamment avec la défection d'une personne devant apporter les fonds complémentaires. Donc à partir de ce moment-là, l'association Les Amis du Ronfil Histoire Paysanne va être créée ad hoc pour, dans un premier temps, organiser une sous-partie afin de lever les fonds nécessaires au règlement redressement judiciaire. Pour cette sous-partie, ce sont des maraîchers locaux, des voisins de l'agricultrice qui vont offrir les légumes pour la fabrication de la soupe. Après les 700 premiers donateurs et donatrices, 150 participants et participantes à la sous-partie, dont certains et certaines viennent de Caen et de Mayenne, donc participent. Une personne qui a fait le déplacement explique à la journaliste « Nous ne connaissions pas la ferme avant, nous avons pu voir ce que fait réellement Charlotte, la richesse en biodiversité du site et comment elle met un point d'honneur à gérer sa ferme dans les meilleures conditions pour les animaux, l'environnement et surtout notre paysage bocager. » Le but de l'association est rappelé dans l'article par la trésorière, soutenir la ferme du Ronfil en préservant les espèces animales du terroir, les variétés botaniques anciennes, en restaurant le bâti, en créant un lieu participatif de partage des savoir-faire anciens, d'entraide, d'exposition, de conférences débats et de fêtes. Et donc cette opération, elle réussit puisque de nombreuses personnes participant à la sous-partie vont souscrire à l'association. Et donc finalement, aujourd'hui, alors qu'on parle, l'exploitation est toujours conduite par l'agricultrice séparée de son ex-mari et associée, alors qu'elle a la garde de leurs enfants. Cela dit, l'agricultrice connaît toujours un certain nombre de difficultés liées d'ailleurs à son divorce ou pas. Donc ces difficultés concernent la diversification de son exploitation, le maintien de ses débouchés commerciaux qui sont fragilisés, et puis d'une manière plus générale, une précarité résidentielle. Alors, je vous propose à partir de maintenant de réfléchir au rôle de différentes espèces de capitaux dans l'atypicité de cette agricultrice divorcée qui résiste donc à la précarité post-divorce. D'abord, je me dois de donner quelques précautions méthodologiques relatives aux matériaux que j'ai accumulés. Les sources, par exemple, ne renseignent pas un certain nombre de déterminants de la divorcialité en agriculture que Céline Bessière et Sybille Golac rappelaient, à savoir l'origine sociale des ex-époux, l'écart d'âge entre les époux au moment du mariage, les capitaux économiques respectifs au moment de l'union, et puis le type de mariage choisi. Est-ce que c'était un mariage de régime séparatiste ou régime communautaire ? Et on ne sait absolument rien de la nature de la procédure de divorce. Néanmoins, on peut dire que cette agricultrice, elle est alternative dans un premier temps à l'aune de différents critères. Elle s'est installée hors cadre familial, ce qu'on appelle en études agricoles les NIMA, non issus du milieu agricole. Elle est en production biologique diversifiée avec des animaux de race ancienne qu'elle n'abat jamais pour la viande. Elle transforme des farines issues de l'agriculture biologique et commercialise du pain en circuit court et elle pratique aussi l'accueil à la ferme. Mais plus qu'alternative, cette agricultrice est atypique. Contrairement à la majorité des cas étudiés par Céline Bessière et Sybille Golac, elle reste à la tête de l'exploitation agricole à l'issue du divorce, et de surcroît sur une exploitation en élevage bovin. Or, je le rappelle, c'est la production où le taux de travail conjugal est le plus élevé, et donc c'est notamment dans ce cas-là qu'une exploitation faisait faillite, et donc c'est un contexte qui apparaît moins favorable à la pérennité de l'exploitation. Et à cela s'ajoute le fait que sa production de pain est écoulée en circuit court. Là, je vais citer une partie d'un ouvrage de Christine Aubry qui nous dit « Une part importante du travail en circuit court est liée aux activités commerciales auprès des consommateurs et ou de l'intermédiaire. Cela nécessite des compétences particulières, mais aussi demande un temps de travail important et ou à des horaires précis. Ce sont alors les exigences des consommateurs, y compris dans les formes militantes comme les AMAP, qui dictent durée et horaire de cette commercialisation. » Donc à la contrainte horaire de l'élevage bovin s'ajoute aussi la contrainte horaire de la pratique des circuits courts. Donc cette agricultrice, elle semble déjouer la trajectoire typique, tendancielle des agricultrices divorcées ou en instance de divorce, alors même qu'elle cumule des difficultés en termes de temps de travail qui sont liées à son système de production et d'exploitation agricole. Au-delà de ça, jusque dans sa stratégie face au redressement judiciaire et notamment avec le recours au financement participatif, cette atypicité, elle est significative puisque, quoi qu'en développement, le financement participatif reste un mode de financement d'abord alternatif, mais l'agricultrice ici ne choisit pas le site agricole dédié qui s'appelle Mimosa, qui a été créé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire et productiviste et historique, mais elle choisit un site qui s'appelle KissKissBankBank. Et puis, s'il faut davantage illustrer cette atypicité, son élevage sans valorisation de la viande pour la boucherie dénote particulièrement dans le bocage normand, et les prestations d'éco-pâturage qu'elle développe au-delà de la production laitière renvoient à une pratique qui est d'abord urbaine, pour ne pas dire métropolitaine, je pense à la région parisienne notamment. L'éco-pâturage, c'est le fait de louer des bêtes, souvent des bovins ou des ovins, pour entretenir des espaces verts, comme ça se fait dans les douves, là, ici, maintenant, par exemple, au château. Donc, un certain nombre de caractéristiques montrent un peu la typicité de cette éleveuse boulangère, qui n'en demeure pas moins dans une situation de précarité à la suite de son divorce, avec une mesure de redressement judiciaire certes résolue, mais elle est impliquée dans des conflits de voisinage dont nous reparlerons. Ces conflits contrarient sa diversification entrepreneuriale et participent à sa précarité résidentielle. Et d'une manière générale, elle reste dépendante de la garde paternelle des enfants pour certaines de ses activités commerciales. Comme l'exprime sa fournisseuse de farine afin d'excuser son absence lors d'une assemblée générale de l'AMAP et pour expliquer qu'elle sera là lors de la prochaine distribution de paniers, sa fournisseuse dit « Comme ses enfants seront chez le père, elle sera à l'AMAP ». Donc on voit bien la dépendance à la garde paternelle pour la bonne conduite de ses activités commerciales. Alors, je vous propose de réfléchir aux différents types de capitaux qui vont intervenir dans cette atypicité et dans cette résistance à la précarité post-divorce et à la domination masculine en agriculture. Puisque si cette agricultrice, elle semble déjouer les tendances associées au divorce en agriculture, je formule l'hypothèse selon laquelle cette atypicité, elle est bien réglée socialement. Et donc pour essayer de vérifier cette hypothèse, je vais devoir caractériser ses propriétés sociales, et pour ça je vais utiliser la grille bourdieusienne des capitaux. Donc d'abord, le capital économique. D'abord, je voudrais rappeler que on ne sait pas si elle était entièrement propriétaire ou non du logement et de l'outil de production au moment du divorce, enfin au moment du mariage et au moment du divorce, et comment cela s'est réglé financièrement dans le cadre de la procédure de divorce. Donc il nous faut observer d'autres dimensions économiques de l'exploitation. On va passer par les caractéristiques un petit peu agronomiques. Notamment, elle exploite 45 hectares et elle élève 30 vaches laitières. Donc sa surface d'exploitation, elle est inférieure de 10 hectares à la surface moyenne des exploitations agricoles françaises en 2010. Je fais référence à des chiffres communiqués par Thibaut Preux en 2016, qui travaille sur l'agrandissement des exploitations agricoles. Et puis, donc ça c'est la moyenne générale de la surface de toutes les exploitations agricoles. Et puis quand on prend seulement les exploitations en élevage laitier, si on compare les chiffres, l'éleveuse boulangère, elle exploite 51 hectares de moins que la moyenne des surfaces en lait, et elle élève 11 vaches de moins que le troupeau moyen national de vaches laitières. Donc c'est une petite exploitation. Et ça renforce la précarité financière et économique post-divorce, par exemple, alors qu'elle est en pleine procédure de redressement judiciaire. Sur un blog, elle annonce en urgence la vente de 2 bœufs jersiais, car elle n'a plus de place pour les élever et pas de fourrage en réserve pour les nourrir. Donc elle vend ces bœufs-là dans l'urgence. Donc c'est d'autres espèces de capitaux qu'elle va activer justement pour pérenniser son capital économique qui est menacé, notamment son capital culturel. Sur la capture d'écran ici, donc c'est une capture du site internet de l'exploitation agricole. Donc déjà, le site internet en lui-même, les différents onglets, la mise en page, la manière dont il est renseigné, renseigne justement le capital culturel de cette agricultrice. Mais on voit ici la mise en avant d'un capital culturel que Bourdieu appelait certifié, en mentionnant son cursus scientifique en ostéopathie animale. Et même si elle ne mentionne pas précisément le diplôme, elle mobilise un vocabulaire de type académique, de type scientifique. Et puis on lit aussi sur cette page la revendication de l'agriculture paysanne. Donc là je vais citer un extrait d'article de Gilles Laferté qui reprend lui-même les travaux d'Yvan Bruno, qui a soutenu une thèse sur la Confédération paysanne. Et donc Gilles Laferté écrit nous parle de mobilité sociale guidée d'abord par l'accumulation de capital culturel et de mobilité à gauche de l'espace social, qui du coup ont conduit à une rupture à la fois de l'ordre familial et de l'ordre social agricole établi, dans le cadre de la construction et de la constitution de la Confédération paysanne. On verra que cette agricultrice, elle est proche de la Confédération paysanne. Donc, si on reprend les termes de Gilles Laferté, rupture avec l'ordre social agricole, cette rupture, dans le cas qui nous intéresse, elle est déjà actée par une pratique d'élevage qui est opposée à la souffrance animale et qui refuse l'abattage des bêtes pour la boucherie qui est majoritaire dans le bocage normand. Ici, quand on évoque cet élément, on se situe à l'interface du style de vie et du mode de production, en fait. Et puis aussi, on va commencer à s'approcher du capital social de cette agricultrice, puisque si on récapitule un certain nombre de choses, la mobilisation pour la défense du patrimoine, la protection animale, plus largement la protection de l'environnement, la pratique des circuits courts, tout cela, c'est plutôt l'apanage des fractions hautement diplômées des catégories supérieures. Et si on observe son réseau professionnel, on retrouve par exemple ses caractéristiques, notamment avec les clients et clientes et puis les collègues de la MAP du Don Fronté, dont certains et certaines sont aussi des amis. Et donc c'est notamment via cette AMAP qu'elle commercialise le pain qu'elle fabrique à partir d'une des agricultrices qui vend aussi de la farine au sein de la MAP et qui a fondé la MAP. C'est l'agricultrice qui parlait de la garde paternelle tout à l'heure. Donc le collectif ROX a mené deux enquêtes par questionnaire, dont une il y a un mois pour actualiser un petit peu la cohorte au sein de la MAP. Et donc en rouge, vous avez la stratification un petit peu sociale de la MAP. Et puis en bleu, vous avez la stratification sociale des trois cantons, des trois anciens cantons, de ce qu'on appelle dans le collectif le Don Fronté authentique. Et donc on voit sur ce graphique, une sous-représentation des ouvriers et des ouvrières dans la MAP qui sont majoritaires, enfin en tout cas surreprésentés dans le canton, et à l'inverse, on voit une surreprésentation considérable des cadres et professions intellectuelles supérieures au sein de la MAP, alors qu'ils représentent moins de 5% de la population des ils et elles représentent moins de 5% de la population des trois cantons. Et donc là, on est dans le sud du Bocage Orné, alors que Charlotte, elle exploite et elle élève ses bêtes au nord du Bocage Orné. Et en fait, donc là, on commence à cerner un petit peu son capital culturel, à cerner un petit peu son capital social. Et son capital culturel, je propose considérer qu'il prend une forme de capital symbolique du fait la reconnaissance de sa dotation en capital culturel, de son mode de production. Et cette reconnaissance-là, cette légitimation-là, elle va passer par plusieurs canaux. Hop là. Alors, d'abord, si on revient aux sources utilisées, le traitement médiatique des difficultés de cette éleveuse boulangère constitue, enfin en tout cas, nous amène un petit peu à réfléchir à cette forme de capital symbolique, puisque si on peut l'exprimer ainsi, son pressbook commence déjà par la une du premier quotidien français, ce qui n'est pas si mal. Plus fondamentalement, si on observe ensuite le traitement médiatique de sa situation, il peut s'apparenter à ce qu'Éric Neveu, dans la sociologie des mouvements sociaux, dans le chapitre sur les médias, appelle le principe de remontée médiatique. Puisque sur la première séquence de l'été 2015, l'affaire elle est d'abord traitée en page régionale et locale, puis elle va l'être donc toujours par la même journaliste, Anne-Emmanuelle Lambert. C'est en ça que c'est pas exactement le principe de remontée médiatique d'Éric Neveu, puisqu'il, lui, dans le principe qu'il décrit, au fur et à mesure que l'article monte dans la hiérarchie des rubriques, il va passer des éditorialistes locaux vers les chroniqueurs et chroniqueuses politiques, par exemple. Mais là, on voit bien qu'il y a une montée vers les pages nationales dans le traitement médiatique au fur et à mesure que l'opération de financement participatif va réussir. Et puis ça aussi, ça nous renseigne de l'appétence des journalistes pour l'agriculture alternative, les circuits courts, le bio, comme les universitaires. On est face à une profession qui participe des surreprésentations de ces catégories socioprofessionnelles-là, dans les AMAP notamment. Mais la reconnaissance des capitaux de cette agricultrice passe par d'autres canaux. Notamment le choix de sa ferme pour la tenue d'un marché paysan organisé par la Confédération paysanne, et puis par un certain nombre de labellisations. La réussite du financement participatif et la création de l'association à vocation patrimoniale participe de cette légitimation de son capital culturel, de son capital économique, son style de vie, de son mode de production. Et justement, dans la légitimation du mode de production, interviennent donc des labellisations. Et là, on en vient à réfléchir à ce que des post-bourdieusiens et bourdieusiennes, on pourrait dire, ont appelé le capital militant. Je fais référence aux travaux de Franck Poupeau et Frédéric Matonti de 2004 sur le capital militant, puisque on voit que Charlotte est très proche sympathisante. Je ne sais pas si elle est adhérente à la Confédération paysanne. Elle est adhérente au groupement des agriculteurs biologiques de l'Orne. Donc, elle milite dans le champ professionnel. Et donc, c'est pour ça que je mobilise le capital militant. Alors, le problème, c'est que... Je connais pas bien sa socialisation, la nature d'acquisition de ses savoirs et savoir-faire militants qui conditionnent, selon Poupeau et Matonti, la structuration de cette forme spécifique de capital symbolique et politique. Mais on peut quand même essayer de réfléchir à cette dotation-là, puisque une des questions de recherche qu'il et elle dégagent dans leur article de 2004 concerne le taux de change de ce capital militant. Donc là, on voit que les labellisations, elles passent par des réseaux militants, notamment d'associations naturalistes, l'Association pour la protection des animaux sauvages et puis le groupe ornithologique normand qui vont labelliser la Ferge, qui est un refuge pour la faune locale. Et donc, on voit bien que ces réseaux militants et les pratiques qui leur sont associées, ils sont ici mobilisés pas seulement dans le champ militant, mais aussi dans le champ entrepreneurial. Et donc, si on reprend un petit peu la question que posent Franck Poupeau et Frédéric Maponti, on voit qu'elle bénéficie d'un taux de change plutôt favorable de ses pratiques militantes, de son capital militant vers son capital économique, puisque l'éleveuse boulangère atypique, elle bénéficie via ses labellisations, enfin, ses labellisations bénéficient... Ces labellisations sont favorables à la diversification de son activité, à la constitution d'une clientèle et même d'un réseau d'investisseurs solidaires, on l'a vu tout à l'heure. Donc on voit un certain nombre de dotations, un capital économique plutôt faible et menacé qui va être préservé par l'activation du capital culturel, du capital social et de formes plus spécifiques de capitaux, notamment le capital militant. Alors, maintenant qu'on a un petit peu cerné les propriétés sociales de cette éleveuse boulangère, il faut essayer de changer d'échelle et de les réinscrire au sein des rapports sociaux pour en venir à notre idée d'imbrication des rapports de domination. Donc, ces propriétés sociales, elles apportent quelques premiers éléments de compréhension de la typicité de l'agricultrice divorcée, mais ces propriétés sociales prennent tout leur sens à l'aune d'une approche relationnelle en contextualisant ces capitaux-là dans l'espace social localisé au sein duquel elles s'actualisent. Donc là, je vais beaucoup utiliser un périmètre qui est le canton d'Athis de l'Orne où habite et travaille cette agricultrice. À l'occasion d'événements tels qu'un petit déjeuner bio et local à la ferme, et donc le pain de Charlotte a été utilisé pour confectionner le petit déjeuner, on va connaître l'origine géographique des participants à ce petit déjeuner qui correspond globalement au chef-lieu du canton d'Athis et puis au village environnant le chef-lieu. Si cet espace est initialement rural et populaire et il connaît des transformations socio-spatiales importantes puisque la typologie réalisée par Jean Rivière et Michael Bermond dans l'Atlas des campagnes de l'Ouest le classe parmi les cantons, je cite, qui sont localisés en troisième couronne des grandes villes et qui sont caractérisés par une structure démographique périurbaine, c'est-à-dire qu'il y a une part croissante de la population de moins de 18 ans et entre 35 et 49 ans. Et puis cette croissance de ces populations-là dans la structure parage, elle est associée à une surreprésentation historique des ouvriers qui s'atténue. Donc, j'ai actualisé le traitement puisque ça s'arrêtait en 2007 avec le recensement de population 2012. Et donc, on voit que la dynamique sociale se confirme puisque la part des ouvriers et des ouvrières dans la population active de 15 à 64 ans, elle perd 8,8 points de pourcentage, quand celle des cadres et professions intellectuelles supérieures s'accroît d'1,7 point et celle des professions intermédiaires 7,8 points. les classes populaires, donc, qui représentaient en 2007 62,9% de la population du canton, n'en représentent plus que 59,3%, puisque le recul des ouvriers et des ouvrières n'est pas entièrement compensé par la progression de 5,2 points des employés. Donc on se situe dans un canton de la Suisse normande ornaise, qui est aux aménités recherchées. On est tout près de la vallée de la Rouve et de la Roche d'Ouêtre, pour celles et ceux qui connaîtraient. Et on est aussi en troisième couronne cannaise, donc une troisième couronne qui reste majoritairement populaire, mais qui semble connaître un début de processus de gentrification rurale. Alors, la littérature scientifique nous rappelle que la gentrification rurale, elle peut être étroitement liée au développement des circuits courts alimentaires, auxquels prend part notamment notre éleveuse boulangère atypique. Donc d'abord, dans leur étude sur les circuits courts dans le parc naturel régional du plateau de Mille Vaches, Frédéric Richard et ses collègues concluent, je les cite, les producteurs peuvent ainsi compter sur le capital économique des gentrifieurs, capital que ces derniers consentent d'autant plus aisément à investir qu'ils concourent à fabriquer ou conforter la campagne qu'ils ont justement choisi d'investir. Frédéric Richard et ses collègues économistes et gestionnaires montrent que ces néo-ruraux sont caractérisés déjà par un niveau de diplôme bien supérieur aux populations rurales des cantons du Limousin avant que ce mouvement sociodémographique n'ait lieu, qu'il y a une surreprésentation des femmes parmi ces néo-ruraux et que beaucoup de ces néo-ruraux vont s'installer soit en agriculture ou soit consommer en circuit court, et l'étude concerne plutôt la filière viande bovine. Et puis, Jean-Baptiste Parentoen, lui, a mené une enquête dans une AMAP du Maine-et-Loire, et il analyse, je le cite, la constitution d'une AMAP peut être réintégrée dans le processus plus général de recomposition des espaces ruraux. D'une part, la diminution drastique du nombre d'agriculteurs depuis les années 1960 tend à remettre en cause leur domination économique et politique dans l'espace local. D'autre part, le maintien d'une frange stabilisée du salariat public, associée à l'émergence d'une population agricole plus dotée culturellement, participe à la constitution d'un groupe social relativement homogène qui a vocation à intervenir au sein de l'espace local. Donc là, on se situe un peu dans ces idées-là. Je partage les analyses d'ensemble des deux recherches. Par contre, je ne partage pas les termes utilisés en termes de catégorisation sociale, puisque notamment l'article de Barantoen s'appelle Distinction d'une petite bourgeoisie en milieu rural, et il nous parle d'un groupe social relativement homogène. Et c'est important pour réfléchir à l'imbrication des rapports de domination qui nous intéressent avec l'éleveuse boulangère dont on a parlé. C'est important de revenir sur ces catégorisations, puisqu'il y a une utilisation abusive du concept de petite bourgeoisie qui, selon Alain Bir, agglomère des catégories sociales les plus hétérogènes qui soient. Le petit capital industriel et commercial, ici agricole avec le cas de Charlotte, la petite bourgeoisie marchande, la classe de l'encadrement capitaliste proprement dite, les professions libérales et les petits rentiers. Donc, Bir nous dit, la petite bourgeoisie traditionnelle, qu'elle soit agricole, commerçante ou artisanale, elle s'est formée sur la base de rapports de production précapitalistes. Et il ajoute qu'elle se reproduit de manière dégradée dans le cadre du développement du système capitaliste. Il développe son idée et, à l'inverse, il nous dit que les catégories socioprofessionnelles de salariés qui composent ce que lui propose d'appeler la classe de l'encadrement se développent en même temps que le développement du système capitaliste. Et c'est ce qui se traduit dans les statistiques dont on a vu la progression, mais à l'échelle nationale, hein, la progression notamment historique des cadres et professions intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires. Donc, c'est pas tout à fait à la construction d'un groupe social homogène à laquelle on assiste lors de la construction d'une AMAP ou d'un circuit court alimentaire de proximité, mais plutôt dans le cadre du régime d'accumulation post-fordiste, à l'alliance que la petite bourgeoisie agricole traditionnelle réalise avec des fractions de la classe de l'encadrement. Et dans ce cadre-là, la petite bourgeoisie agricole que nous décrit Alain Bir, là, elle n'est pas dégradée, mais elle est plutôt renouvelée sur la base de l'écologisation et de la mise en proximité de sa production. Donc, c'est finalement pas la construction d'un groupe social homogène, mais plus la consolidation d'une alliance de classe entre les fractions militantes de la classe de l'encadrement et les fractions culturelles et agricoles d'une petite bourgeoisie traditionnelle qui se renouvelle. Et donc, juste, je reviens au cas d'étude qui nous intéresse, c'est sur cette alliance de classe que s'appuie l'éleveuse boulangère divorcée atypique pour résister à la précarité post-divorce. Ah, oui, j'avais oublié cette animation. Mais ça nous permet de revenir au cas de Charlotte, puisque donc elle exploite dans le canton d'Athis-de-Lorne, je vous ai dit qu'il se situe près de la Roche-d'Ouêtre, et ce mois-ci, le collectif donc Pam Pam, producteurs, artisans, artisanes, militants, militantes pour les plantes alimentaires et médicinales, a organisé sa troisième fête des plantes. Donc le porte-parole, je ne sais plus comment il est, chargé de communication, voilà, du collectif. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est un homme qui est chargé de communication d'un collectif qu'il décrit ayant une moyenne d'âge de 35 à 40 ans, majoritairement féminine. Nous sommes d'horizons divers, en reconversion du maraîchage, de l'arboriculture, docteur en pharmacie, artiste, écologue, gestionnaire d'espaces naturels. On voit bien que si on cible sur les plantes aromatiques et médicinales, on se situe bien dans le mouvement décrit dans la littérature sur les circuits courts de proximité. Alors, maintenant qu'on a fait un peu ces détours sur la gentrification rurale, hein, embryonnaire un petit peu dans ce canton, et puis le point sur les catégorisations sociales, ça, on peut revenir à la question de l'imbrication des rapports de domination. Bien qu'atypique à l'égard de la domination masculine en agriculture analysée au prisme du divorce, cette éleveuse boulangère a subi une précarité post-divorce dont d'ailleurs les déterminants dépassent son statut d'indépendante en agriculture. Puisque l'Ouest France reprenait une enquête conduite par l'INSEE en 2008 et 2010 qui concluait « Dans l'année qui suit la rupture d'un couple, le niveau de vie des hommes s'accroît en moyenne de 3,5% alors que celui des femmes baisse de 14,5%. » Et donc l'INSEE rappelle aussi qu'à l'issue du divorce, 75% des gardes sont maternelles et seulement 16% des gardes sont partagées. Bien qu'atypique, cette éleveuse boulangère, elle demeure précarisée du fait de son appartenance de classe de sexe dans le cadre du système patriarcal. D'un point de vue des rapports sociaux de classe sociale, son appartenance aux fractions culturelles et alternatives de la petite bourgeoisie agricole est à analyser à deux niveaux et toujours à l'imbrication de sa position de femme. D'abord, au sein de la profession agricole, si on regarde, notamment grâce à Clotilde Marchand, l'espace de concernement où elle travaille, on voit qu'il se tient aux marges des bocages laitiers où les femmes sont nombreuses et surreprésentées par rapport à leur part dans les effectifs nationaux ou aux effectifs du Grand Ouest français. C'est donc une carte réalisée par Clotilde et Maxime Marie en 2014. Donc ça nous permet de considérer son insertion au réseau professionnel locaux. Mais alors déjà, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'à l'échelle locale, comme à l'échelle nationale, la présidence de la FNSEA, le syndicat majoritaire auquel elle s'oppose, est assurée par une présidente à l'échelle nationale, Christiane Lambert, et à l'échelle ornaise, Anne-Marie Denis. Donc, c'est au moins autant le contexte local de moindre féminisation de la profession agricole que sa position de classe qui intervienne dans les rapports sociaux qu'elle entretient avec ses homologues, qu'ils soient donc hommes ou femmes. On a vu la proximité, donc je l'ai dit, de l'éleveuse boulangère avec le syndicat minoritaire de la gauche agricole, et puis on a vu que ces dotations en capital culturel et cet engagement qui sont corrélés participent d'une rupture à l'ordre social agricole établi. Et donc, les conflits de voisinage qu'elle connaît sont à considérer à l'aune de ce champ de force, puisque, par exemple, la pollution de l'eau du puits qu'elle consomme avec ses enfants, qu'elle utilise pour la fabrication de ses pains et puis pour l'abreuvage de ses bêtes, donc cette pollution est, selon elle, liée à une contamination issue d'un tas de fumier entreposé par son voisin agriculteur dans le champ qui jouxte son exploitation et donc son domicile. Elle rentre en litige avec cet agriculteur et elle sollicite le maire. Elle n'obtient pas le soutien du maire de la commune qui lui refuse à ce sujet l'autorisation de créer le camping à la ferme qu'elle avait prévu de créer du fait de la pollution de la ressource en eau qu'elle utiliserait aussi, notamment pour l'approvisionnement en eau potable de ses clients. Et donc le maire renvoie l'affaire dans le cadre privé. Donc dans ce contexte-là, l'éleveuse boulangère, elle sollicite des compagnies d'assurance qui vont donc proposer une dépollution chimique du puits. Et en cohérence avec sa labellisation en agriculture biologique, elle refuse la dépollution chimique du puits. Donc cet exemple nous permet de voir que dans le cadre des luttes de classement entre fractions agricoles, cette éleveuse boulangère, elle apparaît, mais elle est d'ailleurs structurellement dominée de par à la fois sa position de femme, mais elle est dominée comme l'est à l'échelle nationale, comme l'est numériquement l'agriculture biologique ou le syndicalisme à la Confédération paysanne. Là, je vais reprendre une analyse de Gilles Laferté. Ces militants à gauche de l'espace social ne s'embourgeoisent pas, la bourgeoisie renvoyant à un mode de vie plus conservateur. Ils refusent les voies d'une accumulation productiviste du capital économique et puisent la légitimité de leur ordre social à l'extérieur des mondes agricoles, celui des mondes culturels et politiques à gauche de l'échiquier social. Et donc c'est tout à fait le cas de cette éleveuse boulangère que ses propriétés sociales assimilent au processus local de gentrification rurale. Si on réfléchit à cette position sociale localisée, elle apparaît de ce point de vue-là comme dominant des classes populaires qui sont progressivement reléguées. Et puis, il existe en arrière-plan de ce rapport social un autre champ de force qu'il faut prendre en compte, c'est celui de l'antispécisme. Et je propose de l'aborder à partir d'une approche matérialiste, attentive à l'espace social localisé dans lequel ce champ de force s'inscrit. En l'occurrence, si on réfléchit à la situation des ouvriers et des ouvrières du canton d'Athis, nombreux, même si de moins en moins nombreux et nombreuses, ils travaillent dans un bassin d'emploi qui est dominé par flair. Et c'est les chiffres de Pôle emploi. Et donc, une des principales usines, c'est l'abattoir Charal, qui est situé rue de l'Agriculture à Flers et qui emploie 550 ouvriers, ouvrières. C'est le quatrième employeur du bassin d'emploi. Et puis, deux autres abattoirs existent dans l'intercommunalité de Flers, un à Caligny avec 18 emplois et l'autre à Messé avec 8 emplois. Donc on est dans un contexte médiatique où souffrance animale et abattoir sont souvent associés. Le militantisme antispéciste et les polémiques qui l'entourent provoquent en retour de contre-mobilisation agricole. Je pense notamment aux contre-mobilisations conservatrices qui ont eu lieu lors du Space de cette année à Rennes, où une militante de L214 était invitée et où il y a eu des conflits assez violents dans les salles avec un certain nombre d'agriculteurs et d'agricultrices. Et donc ce militantisme en faveur de la protection animale dans le cadre des circuits courts de proximité, aussi, il peut participer finalement à des rapports conflictuels avec d'autres fractions de classe locale, que ce soit des fractions de classe de la petite bourgeoisie agricole, de la bourgeoisie agricole ou bien des fractions ouvrières. Alors pour conclure, d'abord, il faut rappeler qu'en tant que femme, cette éleveuse boulangère, elle est structurellement dominée et précarisée dans le cadre de la divorcialité, mais qu'elle paraît néanmoins atypique au regard du divorce en agriculture. Particulièrement, j'insiste, avec un système d'exploitation d'élevage bovin associé à la transformation de farine en pain vendu en circuit court. Dans ce cadre-là, on a vu l'importance de la mobilisation des capitaux sociaux et militants pour préserver son capital économique qui est menacé dans le contexte de divorce. Et donc finalement, cette étude de cas, elle interroge l'imbrication des rapports de domination. D'une part, la domination masculine qui est liée au système patriarcal. D'autre part, les luttes de classement au sein de la profession, entre guillemets, hein, agricole. Et puis, la domination de classe dans le cadre d'une dynamique de gentrification rurale. Donc, a priori, on a ici affaire à une divorcée précarisée qui appartient à la fraction agricole d'une petite bourgeoisie traditionnelle, renouvelée par les circuits courts et l'écotourisme et par son alliance de classe avec des fractions de la classe de l'encadrement, qui, d'une manière générale, participe à une forme de gentrification à la fois de la profession agricole et à la fois d'une campagne qui est encore majoritairement populaire. Et je vous remercie pour votre attention.